L'enfant dit approchant, Jésus éprouve un immense besoin de réconfort et de consolation. À qui s'adresser, sinon à son Père? Il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Quelques instants plus tard, il pria encore en ces termes, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Notons bien que Jésus affirme ici avoir un Père. Il aurait très bien pu dire « Père » au lieu de « Mon Père ». Mais de toute façon, ces prières montrent bien la réelle relation de fils à père, les liant l'un à l'autre. Personne ne peut froidement envisager la possibilité que Jésus, même au cours de ces atroces instants, ait encore tenté de tromper le monde en essayant de faire croire qu'il avait un Père au ciel. Imaginons l'instant où Jésus, enchaîné devant le souverain sacrificateur, s'entend dire « Je t'adjure par le Dieu vivant » de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Cette scène est cruciale, car de sa réponse vont dépendre soit sa remise en liberté, soit son supplice. Le moment est venu où toute imposture est devenue impossible, car l'enjeu est trop important. Des lèvres de Jésus tombent cependant ces mots, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. C'est avec solennité, avec fierté, que Jésus vient de dire « Je suis le Fils de Dieu ». La condamnation va alors tomber, inexorable. Il mérite la mort. Et c'est le Sanhédrin tout entier qui vient de le déclarer. Un peu plus tard, voici le Christ sur la croix du calvaire. Suspendu entre ciel et terre. La couronne d'épines déchire sa tête fiévreuse, son dos lacéré par le fouet et pressé contre le bois rugueux, ses lèvres sont sèches à l'extrême, son corps palpite sous une souffrance indescriptible. Des clous traversent ses mains et ses pieds, et de cette poitrine agonisante vont encore jaillir ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis au suprême amour pour ses ennemis, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ce sont bien là les cris d'un fils à son Père bien-aimé. Peut-on imaginer que certains êtres humains nient que Jésus est un Père dans le ciel et s'acharnent à vouloir dresser contre le monde cette idée qu'il est le Fils de Dieu? Comment est-ce possible? Le Christ était sur la croix et son Père était bien au ciel. C'est à cet instant tragique qu'il appelle son Père. Mon Dieu, Père, pardonne-leur. Et pourtant, les adeptes de la théorie d'un Dieu en une seule personne voudraient nous faire croire que puisque Jésus lui-même était sur la croix, il ne pouvait pas avoir un Père dans les cieux à qui il pouvait faire appel. Savez-vous comment il tourne cette difficulté? En disant tout simplement que Jésus se parlait à lui-même, ou qu'il essayait encore de faire croire à la foule réunie qu'il avait bien un Père dans les cieux. Quelle monstruosité! Quelle aberration! Tous ceux qui osent affirmer de telles choses, et dont vous entendez la voix à la radio, sont à placer tout simplement sur le même niveau que ceux qui ont crucifié Jésus. Si le Christ avait un Père, c'est que le Père avait un Fils. Si Jésus le Fils était sur terre, alors que le Père était aux cieux, il est donc évident que leurs deux différentes personnalités se trouvaient en même temps à deux endroits différents. En règle générale, on considère qu'il suffit de deux témoins pour établir un fait. Dieu et le Christ témoignent tous deux de la divinité. Et cela nous permet d'affirmer que cette divinité comprend au moins Dieu et le Christ. La citation que fait l'apôtre Jean, divinement inspiré, nous pousse à tirer cette conclusion formelle. Écoutons le Seigneur. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Nier que Dieu et le Christ sont deux personnalités différentes, c'est également rejeter deux témoins divins cités par la Bible. Comment est-il possible que quelqu'un lise cette déclaration de Fils de Dieu sans comprendre que Dieu le Père et Christ son Fils sont deux personnalités absolument distinctes l'une de l'autre? Écoutons à nouveau les paroles de Jésus. « Je rends témoignage de moi-même. » Voici donc une personne. « Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Et voilà un second témoin. Qui avez-vous dit? Mon Père? Pas possible. Et qu'a fait le Père? Le Père a envoyé le Fils sur la terre. Il l'a envoyé. Maintenant, raisonnons un peu. Si le Père est en même temps le Fils et est à la fois au ciel et sur la terre, alors celui qui est le Père et le Fils s'est envoyé lui-même sur terre, tout en restant dans le ciel. Quelle confusion, quelle soupe, quelle ineptie! Et pourtant, c'est exactement ce que certains enseignent, que la divinité ne comprend qu'une seule personne. Absurde, ne trouvez-vous pas? Il ne fait pour nous aucun doute que Dieu est le Père, que le Christ est son Fils, et qu'il s'agit de deux personnes distinctes. Quand Dieu dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », il ne voulait dire que cela, et rien d'autre. Mais les faux docteurs s'écrient malgré tout, « Non, Dieu, tu te trompes, tu n'as jamais eu de fils, il n'y a que toi, n'essaye pas de tromper le monde, d'ailleurs, nous le savions mieux que toi. » Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une seule et même personne, rien qu'une personne, alors Marie est nécessairement la mère de Dieu, et chacun sait qu'il n'en est rien. Cela m'amène à affirmer une fois de plus que la doctrine soutenant que la divinité n'est constituée que par une seule personne est non seulement fausse, mais encore véritablement sacrilège, et je pèse mes mots. Elle détrône Dieu et le ramène au niveau de l'homme qu'il a créé. Une doctrine permettant de conclure qu'une simple femme fut-elle aussi vertueuse que Marie pourrait avoir conçu Dieu relève pratiquement du domaine de l'athéisme, nuancé ou pas. Cette théorie met l'âme de l'homme en danger, car elle comporte les éléments fondamentaux du manque total de révérence, de respect et de soumission envers le Créateur du monde. Vous ne pouvez absolument pas vous permettre d'y prêter l'oreille, et encore moins d'y conformer votre vie, car ce serait là mettre votre vie éternelle elle-même dans la balance. Mais poursuivons notre fructueux entretien. Dieu le Père, Christ le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais ils ne constituent pas seulement une personne. Ils sont divins et distincts quant à leur personne. Cependant, ils sont un en intention, un en but et un en manifestation. Dans la prière que le Fils adresse à son Père, en Jean chapitre 17, versets 20 et 21, il demande que ses disciples puissent être un comme lui et le Père le sont. Mais il est toutefois évident qu'il ne prie nullement pour que les disciples deviennent une seule et même personne. Écoutons le Seigneur. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. On prétend que Dieu et le Christ ne sont qu'une seule et même personne, parce que Jésus a dit que son Père et lui sont un. En suivant ce même raisonnement, il faudrait nécessairement conclure que tous les disciples de Christ ne sont également qu'une seule personne, puisqu'il a dit « afin que tous soient un ». Allons plus loin dans cette ineptie et admettons durant un court instant que Dieu et le Christ ne sont en effet qu'une seule et même personne. Et écoutons à nouveau une partie de la prière de Christ. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Dans ces conditions, non seulement les disciples du Christ ne seraient qu'une seule personne, mais de plus, ils seraient Dieu lui-même. Cette doctrine ferait de l'homme Dieu personnifié. Une personne dotée d'une intelligence même très modeste pourrait-elle raisonnablement conclure que les chrétiens sont l'éternel, et cela sous prétexte qu'ils sont un en Christ? Non, n'est-ce pas? Les chrétiens doivent tout simplement être un en Christ, c'est-à-dire être unis en son nom, parler un même langage spirituel, pratiquer une doctrine commune, parce qu'ils sont les disciples du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul déclare lui aussi que le mari et la femme ne doivent faire qu'un. Mais cela ne signifie pas une seule personne. Et il dit pourtant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais de là à conclure qu'ils vont finir par n'être plus qu'une personne, il y a loin. En 2 Jean, verset 9, la Bible dit que celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Cet article « et » est significatif. Le Père et le Fils. Autrement dit, le Père plus le Fils. Cela fait deux personnes, si je ne m'abuse. Et deux font plus qu'un. Si quelqu'un est capable de compter jusqu'à trois, il peut identifier les trois personnes que cite Éphésiens chapitre 4, et versets 4, verset 6, et qui sont un seul Esprit, un seul Seigneur et un seul Dieu. Aussi peu logique, aussi peu raisonnable que cela paraisse, il existe cependant des dirigeants religieux qui s'opposent aux enseignements de la Bible en prétendant que Dieu est une seule personne et non trois. Ils voudraient vous faire croire que Jésus n'est pas un fils et que Dieu n'est pas un père, qu'ils ne sont qu'une seule et même personne. J'aimerais que nous puissions voir ensemble leurs objections et leurs arguments. Malheureusement, le temps passe vite et il est déjà l'heure de vous quitter.